Nous accueillons aujourd'hui Francesca Crépé, Anne Dussarat et Evelyne Garcia de l'association Océan Ensemble. Bonjour, comment allez-vous mesdames ?
Bonjour.
Très bien, on est enchanté de vous recevoir. On va parler d'habitat participatif aujourd'hui. On va passer une heure ensemble pour découvrir votre projet. Mais tout d'abord, nous allons écouter le flash info national et international. Nous sommes de retour avec nos invités donc, qui vont nous parler de Océan Ensemble. Donc, c'est de l'habitat participatif et vont nous expliquer ce que c'est. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre projet, s'il vous plaît, mesdames ? Qu'est-ce qui s'y colle en premier ?
Alors, le projet d'habitat participatif sur Souston, par rapport à l'association Océan Ensemble que nous sommes, c'est en fait un habitat où déjà on serait avec des jeunes et des moins jeunes, et où pour la plupart des personnes que nous sommes aujourd'hui, qui sommes, je dirais, rentrées dans l'âge, avons cette réflexion, qu'est-ce qu'on fait demain, est-ce qu'on est chacun chez soi, tout seul, voilà. Donc c'est ça un petit peu l'idée qui a été faite. Et elle est partie de jeunes femmes qu'on a rencontrées dans un jardin partagé de Souston et qui parlaient à un moment donné de cet échange d'habitat participatif. Et d'ailleurs, comme Anne est là, elle pourrait peut-être en parler mieux que moi.
Mais tout à fait, je crois qu'elle est directement concernée. On vous écoute, Anne.
Oui, tout à fait. On discutait au sein d'une même association. On se connaît, on est amis et en fait l'idée de départ c'était comment on peut vivre un peu mieux ensemble et vraiment avec mon ami on discutait comme ça, même avec un habitat léger sur un terrain, enfin c'était vraiment comme ça des réflexions pour avoir chacun son indépendance mais aussi pouvoir partager avec les autres un petit peu plus, être plus en lien. Et voilà, Evelyne était à côté et elle, ces projets-là, elle y pense depuis longtemps, ça fait pas mal d'années qu'elle est branchée sur ça. Excusez-moi, je la vois un peu enrouée.
C'est pas grave.
Et ça a démarré comme ça, d'échanges. Ça s'est développé parce qu'en fait, on a commencé à vraiment se réunir et faire des réunions de plus en plus régulières. D'autres personnes se sont greffées au groupe. Et puis, ça s'est étoffé. Et là est venu l'habitat participatif. C'est quelque chose de plus concret, plus construit. Il y a plus de 1000 projets en France. Ça fait pas mal d'années maintenant que ça existe. Mmh. Et voilà, c'est cadré. Il y a un site qui s'appelle Habitat Participatif France sur lequel on peut retrouver tous les projets en cours, en construction ou qui sont finalisés. D'ailleurs, on est allé en visiter en suivant. Donc le groupe s'est développé. On se réunit toutes les 3 semaines afin d'échanger sur un petit peu les infos qu'on a trouvées. Chacun se dispatche les missions et aller prendre de l'information, faire des rendez-vous ensemble, des visites, etc. Et on a créé donc l'association Océan Ensemble au début de l'année, de cette année. Donc c'est un projet, c'est une manière d'habiter plus solidaire, écologique et participative. Donc ça englobe beaucoup de choses.
Oui, qu'on définisse un peu la chose. Qu'est-ce que c'est qu'un habitat participatif ? Alors il y a habitat participatif, il y a plusieurs styles en fin de compte. Chacun, mais c'est des projets qui sont chacun uniques, suivant les valeurs et les chartes qu'on y met. Qu'est-ce que c'est un habitat participatif, en gros ?
Quelqu'un veut... déjà pour nous, ce qui est important, c'est qu'il y a un mélange de générations, que ce soit aussi inclusif, on ne fait pas de différence. Et c'est dans la diversité aussi qu'on s'apporte plein de choses. Donc c'est ça, recréer du lien humain, mutualiser aussi, que ce soit du matériel, des espaces. Donc en fait, l'habitat participatif se construit par chacun à son logement, son indépendance. Et à la fois, il y a dans ce lieu créé pour ça des espaces communs. Ça peut être un jardin, un atelier, une salle à cuisine, une salle à manger, une buanderie. Donc pareil, on n'a pas chacun notre machine à laver. Donc c'est aussi économique. On trouve que ça a plus de sens. Donc une buanderie partagée, du matériel. Ça peut être des outils, du savoir-faire aussi. Donc on est dans quelque chose de partage, mais quand même chacun a son petit chez-soi et sa tranquillité, ce qui est très important. C'est vivre ensemble, mais pas les uns sur les autres.
C'est marrant parce que ça pourrait faire penser un petit peu à la définition de un petit village à l'ancienne, en fin de compte. C'est-à-dire, ou à un mot, peut-être le terme hameau peut-être un peu plus proche de la réalité, parce que c'était un petit peu une méthode dont vivaient les gens à une certaine époque, avec chacun chez soi, mais beaucoup de mutualisation et de l'intergénérationnel, bien entendu. On parlait tout à l'heure de Fabien Villeneuve, il nous a bien expliqué l'intérêt beaucoup d'agriculteurs sont encore comme ça. Hein. Ils sont, ce qu'on fait de moins en moins, hein, ce partage de proximité entre les générations. Et voilà. Donc c'est, moi, ça me fait penser un petit peu à ça.
Tout à fait.
Francesca.
Avec l'avantage de la culture actuelle, c'est-à-dire un habitat très confortable, biosourcé, avec une très bonne énergie. Et ça, c'est très important parce que maintenant, les investisseurs, les gens, qui, quel que soit leur âge d'ailleurs, hein, qu'on ait 40 ans ou qu'on ait 80, on a envie de mettre de l'énergie et des moyens dans des contextes qui sont climatiques et qui sont confortables. Parce qu'on va de plus en plus vers une autonomie énergétique. Donc ça fait vraiment partie du projet.
C'est vrai. C'est vrai qu'avec l'utilisation croissante des énergies renouvelables, on peut avoir localement une production d'énergie.
Et absolument.
Voilà. Et donc du coup, ça permet effectivement de faire des petits îlots d'habitat différenciés d'une grosse métropole avec tout connecté avec des fils et des tuyaux.
Ça permet aussi de faire un beau projet architectural parce qu'il y a des entrepreneurs qui sont parfaitement spécialisé. Maintenant, le climatique existe depuis plus de 20 ans, donc c'est pas nouveau. Il y a la compétence. Ça permet aussi d'accueillir, si on fait des chambres d'hôtes pour des saisonniers, si on accueille du paramédical, ça permet aussi d'avoir un contexte très, très chaleureux. Et ça fait vraiment partie de la charte dans laquelle on souhaite s'inscrire.
Oui, tout à fait. Alors, vous disiez qu'il y en avait quand même, qu'il y en existait en France, plus d'un millier, je ne sais plus combien exactement. Alors, vous en avez visité ou étudié. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme idée, comme chose que vous ne plaisez peut-être pas aussi, mais des choses que vous avez plutôt adoptées dans ce que vous avez découvert?
Nous, on a visité le Panjat. À Auch, dans le Gers. Donc c'est une rénovation d'une ancienne ferme. Donc voilà, rénovation énergétique. Donc il y a plusieurs familles qui vivent dessus, sur ce lieu. On a été très contentes de visiter ce lieu pour voir concrètement comment ça fonctionne. Donc c'est inspirant. Après, nous, on ne sait pas si on va sur de la réhabilitation, enfin rénovation, ou si c'est de la construction, dans tous les cas, avec des matériaux biosourcés et des artisans locaux un maximum. Après, tout s'étoffe petit à petit en fonction des échanges qu'on va avoir, de ce qu'on découvre jour après jour, finalement. Donc,
vous ne partez pas tout à fait de rien, dans le sens où il y a des exemples que vous pouvez étudier et suivre qui vont vous inspirer sur ce qui est faisable ou pas, ou qui correspond ou pas à ce que vous voulez faire.
Dans le quotidien, l'exemple du Penjat correspond, à mon sens, tout à fait à notre souhait. La seule petite chose, je dirais, et difficulté, me semble-t-il, par rapport à notre projet où on en est, c'est qu'ils sont quand même bien isolés en pleine campagne, ce qui fait que même si, pour la plupart, c'était quand même des jeunes, malgré tout, et donc c'est systématiquement la voiture, quoi, avec les jeunes enfants et tout. Et nous, à aujourd'hui en tout cas, notre projet, c'est d'être plus au centre de la ville, justement, pour éviter ces va-et-vient. Parce que pour l'instant, la moyenne d'âge de notre groupe n'est pas parmi les jeunes. Et puis que même si, les jeunes avec lesquels on est actuellement, c'est qu'il y ait la proximité de l'école, de ceci ou de cela. Donc voilà, entre guillemets, le petit inconvénient de ce projet qu'on est allé voir. Mais après, dans l'esprit et dans le quotidien, franchement, une excellente, excellente cohésion avec des gens qui, même si les choses ont été faites officiellement, se sont prêtés de l'argent le temps que les jeunes et le résultat de l'emprunt fait à la banque et en suivant, mais vraiment un excellent esprit qui, me semble-t-il, en tout cas moi je vais y croire, est le nôtre.
Oui, tout à fait. Alors, on en parlait hors antenne, bon, c'est un projet quand même soustonné, hein, c'est-à-dire que vous êtes attaché quand même à un certain lieu. Bon, c'est vrai que ça, le fait d'être dans la commune vous permet de bénéficier de tous les services, la proximité, que ce soit pharmacie, que sais-je, cinéma, la culture, le jardin partagé, etc., etc. Et voilà. Et puis en plus, c'est vrai que
l'océan, juste à côté, c'est pas neutre.
L'océan, océan semble, d'ailleurs, c'est quand même intégré dans le nom de l'association.
C'est pas un hasard.
Oui, voilà. Et puis c'est vrai que le projet là urbain de la ville de Soustan est censé rendre plus vivable pour les piétons et les cyclistes. Le centre de la ville, c'est donc tout ça va quand même dans la même direction, on va dire.
Oui, complètement.
Voilà. Ça va être le moment de faire la première pause. Et on se retrouve tout de suite après. On a encore plein de choses à découvrir. À tout de suite. Et nous voilà de retour dans notre studio de TOS avec Francesca, Anne et Evelyne. Donc, on parlait d'habitat participatif, ouais, des exemples que vous aviez vus, des réalisations qui avaient déjà été faites. Je sais qu'on a parlé aussi de France Habitat. C'est Habitat France, peut-être dans ce sens-là, oui.
Habitat Participatif France.
Habitat Participatif France, oui. Alors, c'est quoi exactement ? C'est une association ? Qu'est-ce que c'est ?
C'est un mouvement de citoyens, acteurs et professionnels de l'habitat participatif. Et en fait, ils sont...
C'est une association.
C'est une association, c'est une association. Voilà, tout à fait. En fait, c'est un site aussi qui répertorie tous les habitats, tous les projets qu'il y a aujourd'hui et qui relie aussi d'autres organismes, d'autres associations dans ces mêmes projets, pour soutenir des projets, faire du lien, promouvoir tout ça et voilà, encadrer aussi, aider, donner de l'information, parce que ça bouge, ça change, ça avance. Donc ça permet aussi à ça. Nous, par exemple, on a une fiche sur le site Habitat Participatif France. On peut trouver notre fiche en tapant OCE Ensemble, à Souston. En fait, il y a une carte de la France.
Oui.
Donc on peut taper Souston ou aller dans la région, ou aller dans le sud-ouest. Et il y a une fiche descriptive de notre projet avec notre philosophie, où on en est, qu'est-ce qu'on souhaite faire, etc. Et on a un mail aussi sur lequel on peut nous contacter.
Mais c'est peut-être une bonne idée de le donner. On le redonnera plus tard, mais donnons-le déjà. Parce que le but, c'est aussi que les contacts pour vous.
Voilà, mais c'est cette page en fait sur le site.
Oui.
On va sur la carte, on va sur Souston.
Oui.
Alors, je peux donner le mail, mais vous le retrouverez dessus et c'est là où vous aurez la boîte mail, en fait.
Oui, donc, et le site, c'est Habitat
Participatif France.
Voilà. Et donc, si on cherche OCE Ensemble, on vous trouve. Oui.
En fait, Habitat Participatif France, c'est une mise en réseau. C'est vraiment les pionniers de la mise en réseau de l'habitat participatif. Ça existe depuis longtemps. Et l'avantage, c'est qu'il y a aussi bien des gens qui vendent un lieu que des gens qui cherchent une solution.
Ah oui.
Donc, il y a cette synergie, la mise en réseau, c'est une synergie.
D'accord. Et vous avez une idée du nombre de projets tels que les vôtres, ceux qui sont en cours, je veux dire, pas ceux qui sont réalisés, mais vous avez une visibilité sur ça ? Vous êtes nombreux, vous communiquez entre vous ?
Là, il y en a plus de 1000 et on peut voir sur la carte effectivement tous les projets en construction, déjà construits. Et on peut se mettre en relation parce qu'il y a la fiche à chaque fois de chaque groupe sur laquelle on peut être en lien. Donc il y a plus de 1000 projets en France et déjà depuis le départ, il y a près de 10 000 logements individuels créés dans ce contexte d'habitat participatif.
Et puis tous les ans, Habitat Participatif France, à travers tous ces lieux, organise des journées portes ouvertes.
Ah oui.
C'est comme ça que nous, on a pu aller au Penjat.
D'accord.
Donc à partir de là, c'est la rencontre avec des habitants. Et là, tout est ouvert, quoi, en termes de discussion, de comment ça s'est passé, comment ça a démarré, quels sont les, entre guillemets, avantages, inconvénients ou les petites difficultés, parce qu'il y en a toujours au démarrage. Voilà. Mais il y a une chose importante par rapport à Habitat Participatif France, c'est que c'est une association et c'est un organisme qui est, qui est en lien régulier avec, le gouvernement français pour faire évoluer tout ce qui est texte de loi à partir, justement, de l'habitat participatif et sous toutes ses formes juridiques.
Oui.
Ça, c'est important. Hein.
Oui.
Habitat Participatif France est très, très au fait et fait grandement évoluer ce genre de choses.
Ah oui, c'est vrai qu'il y a la partie juridique. Oui,
c'est en 2014 que l'habitat participatif il a été reconnu juridiquement au chapitre 47 de la loi Allure.
D'accord.
Voilà.
Ok, très bien. Et qu'est-ce qu'il y a de plus proche ? C'est quoi l'organisme qui ressemble au vôtre le plus proche géographiquement d'ici ? Je vois qu'il y a quelque chose à Anglette, là, c'est quelque chose d'ouvrier HLM, coopérative ouvrière de logement Anglette. J'ai vu qu'il y a cet organisme-là, il y a quelque chose.
Là, vous parlez de l'organisme du COL,
COL. Oui, le COL, c'est quoi ?
Qui est un organisme ouvrier HLM et qui est effectivement dans les Landes, en tout cas, un de ceux qui est le plus présent dans ce qui est les formes d'habitat participatif qui existent aujourd'hui. Et effectivement, sur... où est-ce qu'on est allé voir l'autre fois, là ? Où c'était ? Je ne sais plus où exactement. Non, quand on est allé dans les Landes à Anglette et un petit peu Tarnos. Plus au-delà, presque, voilà, Tarnos, il y a...
Grandola.
Voilà, le projet Grandola, merci Anna.
Grandola.
Grandola.
Comme Grandola.
Les... Grandola, ah oui, pardon. Voilà.
Pas, comme pas Grandola.
Voilà. Oh, tant pis.
Qui est une rénovation d'un immeuble, mais qui est effectivement guidée en habitat participatif.
Oui.
Et c'est sous l'impulsion et sous le guide vraiment régulier du COL que ce genre de choses existe, en tout cas là.
D'accord, voilà. Très bien. Ben, c'est déjà le moment de faire la pause suivante. Désolé Francesca, pas de chance, la prochaine fois. On va écouter le flash info local rédigé par mon collègue Nicolas de l'antenne de Dax et on se retrouve tout de suite après. Nous voilà de retour, donc on continue à parler de votre projet. Ah oui, donc il y a un aspect qui est, on l'a un petit peu évoqué, qui est non négligeable et important et inévitable, c'est l'aspect juridique. Et pour ce faire, vous avez suivi une formation qui vous aide peut-être à savoir ce que vous pouvez faire, pas faire, quels sont les cadres, pour nous en parler un petit peu.
Oui.
Une volontaire.
Mais oui, à un moment, il a fallu regarder ce que impliquait ce genre de projet sur la partie juridique, dans quel cadre on y allait. C'est pour ça qu'on a fait tous ensemble une formation avec ADCOP, qui est pareil, un organisme spécial spécifique dans l'habitat partagé.
C'est une coopérative.
C'est une coopérative, voilà. Et les thèmes qu'on a souhaité voir, aborder, parce qu'on ne va pas dire qu'on les connaissait, c'était toute la partie juridique.
Oui.
Donc on a fait le tour de SAS, SCI, SCIA, enfin je vous en passe.
Voilà.
Et aujourd'hui, dans le projet qui est le nôtre, on partirait, nous, plutôt vers une coopérative. La seule chose que l'on n'a pas encore décidée à aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas si on irait sous la forme de la loi 47 ou sous la forme de loi Allure. Alors bon, je ne rentre pas dans le détail par rapport à ça, mais il y a quand même de grosses différences à un moment donné dans la durée du projet, quand à un moment donné quelqu'un part, que ce soit par rapport à un départ de vie ou autre chose. Voilà, la seule chose qui est en tout cas commune des deux côtés, sauf erreur de ma part, c'est que par ces systèmes de coopératives, quelque part par là, on lutterait contre cette inflation qu'il y a permanente quand on vit ici dans des zones comme la nôtre, à Souston, où ces prix fluctuent sans arrêt. Dans ce contexte-là et dans le choix qu'on a fait, ça n'existerait pas.
D'accord.
C'est pas pour ça que les gens, quand ils partiraient, pour toutes les bonnes raisons qu'ils auraient de quitter le projet à un moment donné, ne pourraient récupérer leur mise de fonds, en tout ou partie. Mais en tout cas, à part le cadre, je dirais, général, comme fait le COL, le cadre général du COL, c'est une évaluation, alors je ne sais pas si elle a lieu tous les ans, de ce qu'est le coût de l'habitat, mais au-delà de ça, non. Et nous, on est dans cet esprit.
D'accord, ça pourrait repousser les problèmes de spéculation.
Tout à fait, voilà, je cherchais le mot tout à l'heure, c'est tout à fait ça. C'est bien dans notre esprit, c'est bien dans notre ADM par rapport à ce projet, absolument.
Ouais, des logements abordables, on échappe à cette spéculation immobilière.
Absolument, voilà.
Ouais. Oui.
Ça implique donc des gens qui ont cet état d'esprit, et c'est important parce que c'est à la base de l'entente. Après, on peut diverger sur beaucoup de choses. On peut être jeune, on peut être vieux, on peut avoir envie de construire soi-même, on peut ne pas construire soi-même, peu importe. Mais ce qui est important, c'est l'investissement aussi bien en personne, en savoir-faire ou en finance, qui ne soit pas spéculatif. Ça ne veut pas dire, comme vient de le dire Evelyne, qu'on va perdre de l'argent si on l'investit, mais en tout cas, ça ne sera pas spéculatif, quoi qu'il arrive.
Oui.
Et ça, je pense que c'est la gaine de l'habitat participatif, tel que nous le pensons et tel que tous les habitats se construisent avec cette veine-là.
Oui, parce que c'est un petit peu le problème de la région.
C'est l'éthique.
C'est cette spéculation qui fait monter les coûts. Et que les gens qui ne sont pas des investisseurs, juste des gens qui veulent se loger, voilà, c'est très 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 difficile, surtout des jeunes qui démarrent. Enfin bon, là, j'enfonce des portes ouvertes, tout le monde le sait ici, mais voilà, c'est très difficile de trouver ne serait-ce qu'un loyer. Pour même un couple de jeunes qui démarrent et qui ont même un CDI au SMIC, bonne chance, c'est hyper, hyper difficile, quoi. Donc c'est une manière aussi de lutter contre ce fonctionnement qui est un petit peu pervers.
Tout à fait. Mais c'est pour ça que nous, dans la forme d'habitat dans lequel on irait, y compris la grandeur, même si on ne veut pas être 50 personnes, parce que c'est compliqué, mais comme le disait Francesca, c'est ouvrir les portes quand même à davantage de gens. Et donc, imaginer aussi d'avoir des chambres supplémentaires pour faire de la location, de manière à ce qu'il y ait un équilibre financier qui se fasse à un moment donné pour l'entretien du bâti, parce que ça s'impose à tout le monde. Quoi, voilà. Donc, c'est des réflexions dans lesquelles nous sommes aujourd'hui.
Oui, d'accord. Ouais.
Des locations, bien évidemment, abordables, des logements durables et abordables pour tout le monde. Quoi. C'est vraiment, comme tu disais, la gaine.
Oui, c'est pas des... Oui.
Et avec un coût énergétique bas, justement, ça fait vraiment partie.
Oui. Alors voilà,
ça ferait vraiment partie. Oui. Et dans ce projet, très vite, on a besoin, et là je lance un appel, n'est-ce pas ? On a besoin de personnes juridiques, bénévoles, qui nous aident pour bâtir et surtout confirmer notre éthique et notre charte. Parce que l'engagement, il s'est basé sur du juridique aussi.
Oui, c'est vrai que vous êtes venu ici pour me voir, ça me fait plaisir, c'est très gentil, mais pas que pour ça quand même. Vous êtes venu aussi pour chercher des gens qui vous accompagnent dans ce projet. Vous avez besoin de trouver un lieu, un terrain, etc. Vous avez besoin d'aide, donc vous avez le micro, profitez-en.
Mais on pourrait même trouver un donateur qui soit intéressé par notre projet, qui est terrain et qui nous accompagne. On pourrait faire un bail emphytéotique. Tout est possible. Il suffit de le vouloir, et d'être patient et d'être constant et d'en parler surtout. Et c'est pour ça que vraiment c'est formidable que vous nous receviez. Parce que c'est notre nécessité absolue de la rencontre avec ces personnes qui vont nous aider.
C'est
et
possible
qui vont croire dans ce projet très vivant.
C'est possible de rappeler ce que c'est un bail emphytéotique, parce qu'on n'est pas
tous
forcément au juge.
Alors souvent, c'est l'objet des mairies, mais on peut très bien faire en tant qu'association, on peut très bien faire un bail emphytéotique. Un propriétaire souhaite donc nous faire bénéficier d'un lieu, et on loue sur, ça peut être 15 ans, 30 ans, 50 ans, mais là, un bail emphytéotique, par exemple, de 15 ans, ce serait formidable, parce que ça permettrait de lancer le projet, de l'animer, de le mettre en place, et ensuite qu'il y ait une succession, parce qu'un projet et une réalisation, c'est jamais si dans le temps ça ce que ça deviendra, mais en tout cas, ça permettrait une mise en place, déjà.
D'accord.
Oui, et puis on peut être, comme le dit Francesca, on peut être plusieurs à l'achat de ce terrain. Ça ne nuit en rien. Mmh. Et comme il y a ce bail emphytéotique, il y a des coûts donc, qui reviennent, ce qui fait que les gens qui pourraient être des mécènes, parce qu'il y en a dans certains projets, faut dire les choses.
Vous nous entendez, messieurs les mécènes, on vous attend.
On en cherche, voilà. Je veux dire, ils auraient une forme de retour sur investissement dans tous les cas. Donc, tout à fait jouable. Et nous, on n'est absolument pas fermés à ce genre d'idée.
Très bien. Très bien, on a entendu le message, je crois, on a compris. Mais voilà. Alors après, c'est vrai que dans l'habitat participatif, souvent, effectivement, il y a cette histoire de faire autrement aussi les constructions. C'est-à-dire que c'est l'occasion aussi d'utiliser d'autres types d'énergie, plus intelligemment, des matériaux différents, des constructions différentes, d'isolation. C'est fou de construire encore des maisons quand on se dit « Ah tiens, on va faire l'isolation à l'extérieur ». Alors que bon, pourquoi on ne construit pas des maisons isolées déjà ? Enfin, je veux dire, il y a des choses qui sont bizarres. Donc, et ça fait quand même partie du projet aussi, cette manière de faire les choses.
Complètement, oui. Puis comme disait Aveline tout à l'heure, il y a un réseau local avec beaucoup d'artisans qui proposent tout ça et qui savent faire de bout en bout une maison avec des produits, des matériaux biosourcés, même locaux idéalement, et avec un impact moindre sur l'environnement. C'est durable aussi. Et après, voilà, tout ça, c'est un coût aussi. Donc, tout ça, c'est des réflexions qui vont se faire petit à petit. On va évoluer là-dedans. Plus on ira vers là. Il y a aussi des possibilités de faire des chantiers participatifs. Tout est possible. On peut nous passer une formation et ensuite organiser des chantiers participatifs. Donc c'est pour ça que de toute génération, tout le monde peut participer. Idéalement, quand on est plus jeune, on a un petit peu plus l'énergie. Et puis aussi l'envie de découvrir, d'apprendre et de faire avec ses mains. Donc,
oui, mais les papis et les mamies, ce jour-là, ils feront la cuisine.
Voilà, tout le monde est important.
Ils déplécheront les légumes.
Voilà.
Ben, c'est du jardin partagé.
C'est ça. C'est le moment de notre dernière pause. On va profiter de la dernière partie d'émission pour redire voilà, ce que vous cherchez, dont vous avez besoin. Et puis, vous allez nous donner les moyens de vous retrouver sur Internet pour que des gens qui sont séduits par votre projet puissent vous rejoindre. À tout de suite. Donc, on est de retour avec Océ Ensemble. Il y a des choses à dire. Comment est-ce qu'on peut vous contacter? Parce que, comme on l'a dit, vous êtes venu aussi pour trouver des gens qui seraient partants pour partir dans ce projet avec vous. Et aussi des mécènes, des gens qui pourraient vous aider, des gens qui auraient des terrains, des aides, etc. Il faut qu'ils puissent vous contacter. Comment font-ils?
Comme je disais tout à l'heure, donc on a une page sur Habitat Participatif France, c'est un site internet. Donc sur une carte, il y a notre mail avec notre fiche, si vous voulez voir plus en détail. Je vais donner l'adresse mail maintenant aussi, oui. Comme ça directement vous pouvez nous contacter. Donc c'est OCE, le tiré du milieu, le 6, OC-ensemble, @hotmail.com.
Très bien.
oc-ensemble@hotmail.com. Voilà. Et bientôt, on sera sur les réseaux sociaux, un réseau social bien connu, utilisé par toutes les générations, voilà, qui existe depuis longtemps. On se mettra bientôt, on aura une page sur ce réseau et on pourra aussi un petit peu plus communiquer sur ce projet, son avancement, etc. Voilà.
Très bien. Oui, et puis on parlait de cette formation que vous avez faite. Oui, vous avez dit que vous avez fait des formations complémentaires, mais c'est un côté rassurant aussi pour les gens qui seraient intéressés à vous rejoindre, de savoir que, comment dire, c'est pas du vent, c'est pas une petite idée de hippie, de comité de hippie, c'est que c'est on y voit un petit peu au-dessus. Ben, ouais, c'est les premières communautés qui ont existé. Hein, c'était un peu ça quelque part des fois. Mais là, voilà, du coup, là, c'est
justement nous ne sommes pas une communauté.
Non.
Et c'est bien d'en parler parce que finalement, c'est bien différent. C'est cadré. Et voilà, maintenant, c'est reconnu par la loi Allure, comme je disais tout à l'heure.
Voilà, oui.
Voilà, c'est très cadré. C'est bien aussi parce qu'on fait des gouvernances partagées. Vraiment, c'est un lieu qu'on organise ensemble, voilà, chacun répartit des tâches, enfin voilà, c'est vraiment cadré, il y a une charte, un statut juridique, voilà. Voilà. Donc on n'est pas du tout sur
c'est ça. C'est
une communauté, voilà, même si tout ça est l'essence de ces projets, et c'est très beau aussi.
Ça fait. Oui.
C'est une utopie constructive.
D'accord, c'est une définition personnelle.
Oui.
Très bien, bah on va l'adopter alors, on va la valider, on va la proposer à l'Académie française, ça sera peut-être dans le dictionnaire l'an prochain. On vous tiendra au courant. Bah, écoutez, mesdames, c'est le moment de se séparer. Merci d'être venus, de nous avoir partagé votre projet. Merci beaucoup.
Merci de nous avoir reçus, surtout.
Merci beaucoup. Et pour ma part, je vous laisse en musique. C'est le week-end, profitez-en bien. Un petit rappel aussi, vous rappelez qu'on a toujours un partenariat avec LMA et nous vous faisons gagner 2 places de concert pour le concert de Billy le 4 avril à Pôle Sud. Il suffit de liker le post Facebook que vous trouverez sur notre page Facebook. On fera un tirage au sort. Date limite, c'est le 27 mars. En attendant, passez un bon week-end sous Souvenir FM à Dichatz.